Cet été, on prend l'art.
Cet été, on prend l'art et on emprunte les chemins de la création. Pour cet épisode, direction la Maison du Parc à Jaujac, en compagnie de Éléonore Jacquiot-Chamska, qui nous parle de l'exposition « Planète-mer, l'eau dans l'écho du temps », visible jusqu'au 22 septembre. La direction est prise, mais la destination finale, elle, reste inconnue. Détachez vos ceintures. Alors, je suis avec Éléonore Jacquiot-Chamska. Bonjour.
Bonjour.
Commissaire ou co-commissaire de l'exposition Planète Mer. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette exposition ?
Alors, à la Maison du Parc, à Jaujac, on a l'habitude toutes les années d'accueillir le public autour d'expositions pédagogiques qui viennent raconter les actions du parc sur le territoire. Cette année, l'exposition, elle est un peu particulière parce qu'on a voulu mêler deux grands projets du parc. D'abord, le parc est classé, labellisé géoparc auprès de l'UNESCO pour son patrimoine géologique extraordinaire. Et puis le parc porte depuis 2017, comme beaucoup d'auditeurs le savent, un grand parcours artistique qui s'appelle le Partage des eaux sur la montagne ardéchoise. L'idée donc cette année, c'était dans cette exposition de faire se croiser ces deux univers, ces deux temporalités, les empreintes et les fossiles il y a des centaines de millions d'années et le regard d'artistes contemporaine ici, puisque nous avons 5 artistes femmes, sur le territoire, sur le paysage, et en particulier sur la question de l'eau. Donc, on nous emmène dans cette exposition, donc Planète Mer, l'eau dans l'écho du temps, à la découverte, finalement, dans l'immersion, presque je dirais, d'espace. On s'imagine être dans la mer, à des profondeurs différentes, retournées sur la plage, et on rencontre finalement les restes, les formes d'animaux, de plantes extraordinaires qui ont vécu il y a très très longtemps, même avant que l'homme apparaisse sur la planète. Et il nous raconte en fait que l'Ardèche, il y a des centaines de millions d'années, a été plongée, d'ailleurs comme toute la France et une partie de l'Europe, sous la mer. Et puis la mer s'est retirée, ensuite il y a eu des lacs, des rivières, là aussi ils ont disparu depuis, avec toutes les transformations finalement qui sont liées à des sources géologiques, on va dire à des événements géologiques. Ils ont disparu, mais ils ont laissé là encore des traces, des empreintes de dinosaures, des fossiles d'espèces qui aujourd'hui ont totalement disparu. Et à travers ce fil et cet aller-retour finalement dans le temps, les artistes qui sont présentés avec des œuvres de formats et de matériaux très différents, des vidéos, des installations, des sons, viennent nous questionner sur notre rapport à l'eau, que l'eau soit finalement ce qui a permis l'apparition de la vie sur la Terre, l'eau qui est un écosystème indispensable, que ça soit sous sa forme de la mer, du lac, des rivières, pour les autres espèces vivantes avec qui on cohabite sur la planète, l'eau que l'on boit tout simplement comme ressource et que l'on va transmettre aux générations futures. Voilà, ces artistes en fait nous invitent à repenser et à re-questionner notre rapport à l'eau et un petit peu aussi à nous dire prenez-en soin, parce que c'est grâce à elle finalement que tous ensemble nous pouvons vivre et que dans peut-être quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, quelques millions d'années, il y aura encore des espèces vivantes sur cette planète.
Justement, 5 artistes contemporaines, c'est-à-dire 5 femmes, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les femmes se sont naturellement plus intéressées artistiquement à cette question ? Ou c'était un choix au préalable? Comment vous avez choisi ces artistes?
Alors, il y a aussi des hommes qui travaillent sur la question de l'eau, mais c'est vrai que, on va dire souvent, les artistes femmes, en particulier ces dernières décennies, donc vraiment dans ce qu'on appelle l'art contemporain, l'art qui est de notre époque, se sont intéressées à l'écologie, se sont intéressées aux animaux, aux plantes, à des gestes qui viennent finalement de la broderie, de tout ce qu'on appelle des pratiques féminines qui n'étaient pas forcément valorisées. Donc il y a une attention, un rapport aux soins, au regard que l'on peut porter apporter à la curiosité que l'on peut avoir autour de nous qui se retrouvent dans le travail de nombreux artistes féminines. Il se fait que là, lorsqu'on a commencé à travailler sur cette exposition, donc avec mon collègue Nicolas Clé qui est en charge donc, du Géoparc, donc la partie géologie, mais aussi avec Benjamin Abou, qui est un artiste qui nous a vraiment accompagnés justement pour créer ce dialogue très fort entre ces éléments, ces créations de la nature et ces créations de l'homme, de la femme. On ne voulait pas que les éléments soient juste juxtaposés les uns avec les autres, on voulait vraiment créer cette symbiose, et c'est grâce à lui vraiment que je pense qu'on a réussi en tout cas ce pari-là. Et c'est vrai que les premiers artistes, les premiers travaux auxquels j'ai pensé étaient des artistes de femmes, et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller chercher plus loin. Parfois, la facilité fait qu'on connaît mieux des artistes hommes, ils ont eu plus de reconnaissance, le chemin est souvent plus facile pour eux, et que si l'on va creuser un petit peu plus, si on va regarder un petit peu plus, ben en fait on trouve des artistes femmes tout aussi intéressantes, parfois plus. En tout cas sur ce sujet-là, ça avait vraiment pour nous du sens, voilà, de montrer leur travail dans ce contexte.
Alors là, on est dans le premier espace. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce qui se passe. On vient de voir certaines formations géologiques, les rides de l'eau.
Oui, les ripple marks.
Les ripple marks.
Alors, on est dans une salle qu'on a intitulée « Sur la plage abandonnée ». On est donc en bord de l'eau. On peut être en bord de mer, on peut être en bord de lac. On a effectivement des traces qui nous parlent de ça, des traces de dinosaures, d'empreintes de dinosaures finalement qui ont été laissées au bord d'un lac. Et on a ces traces très très étonnantes des ripple marks, donc des rides de l'eau. En fait, c'est ce qui reste du va-et-vient d'une vague qui se déplace en aller-retour comme ça, incessant, continu, sur le sable, et ça va créer comme des tout petits bourrelets de sable, des toutes petites rides donc de sable. Et ce qui est assez extraordinaire, donc tout ça, ça se passe il y a environ 250 millions d'années, c'est que ça va être figé dans le temps grâce à la sédimentation, et qu'on retrouve finalement ce moment qui est à la fois complètement éphémère, qui a duré un instant, mais qui s'est répété dans le temps, et ça nous revient aujourd'hui, et ça nous permet vraiment de se projeter dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, si on se balade en bord de plage, on sera face à ce même phénomène, exactement. Et c'est vrai qu'on avait envie, dans cette première salle, de plonger les visiteurs déjà dans une certaine pénombre, apaisante, et face à ces pièces géologiques, de les installer devant une vidéo d'une artiste qui s'appelle Maria Leite, qui est une artiste brésilienne. C'est une vidéo qui fait partie d'une collection publique du Fonds Régional d'Art Contemporain de Lorraine. Et cette artiste, donc Maria Leite, on la voit, ou du moins on voit ses mains, sur une plage de sable, en train de coudre avec un fil de coton blanc le long d'une ligne qui se dessine sur le sable. Et en fait, en la regardant, on se rend compte que cette ligne, c'est la ligne de l'écume. Tout au fond de l'image, on voit les vagues de la mer qui montent. On sent qu'on est vraiment tout au bord, que la vague est à monter puis est redescendue, qu'elle peut revenir, et que si elle revient, elle va effacer le patient travail qu'a fait l'artiste, donc de coudre le long de cette ligne d'écume. Et en fait, elle refait exactement, d'une certaine manière, ce même geste que la fossilisation nous a rapporté, ramené dans notre temps, puisqu'elle vient marquer, elle vient donner finalement une forme à cette ligne éphémère, et puis tout d'un coup la vague arrive, hop, ça efface tout, et on recommence. On peut s'interroger sur ce geste qui pourrait sembler inutile, ou en tout cas qui va à chaque fois être détruit par la force de la vague, mais on sent à la fois cette patience, cette obstination de l'artiste, et finalement ce soin qu'elle met à faire ce travail. Et le travail de couture, c'est aussi un travail de réparation. Et donc c'est vraiment l'idée dans cette première salle d'être face à quelqu'un qui nous dit il faut prendre soin de la nature, puisqu'on en fait partie, il faut prendre soin de nos relations à l'autre, parce que c'est comme ça que l'on pourra continuer à vivre ensemble. Thank you.
On change de salle, on change d'ambiance et on est parti pour des voyages microscopiques.
On est vraiment là, au fond de la mer, et on voit sur les murs des images fluorescentes. Quand on s'approche, en fait, ce sont des reproductions de plancton. Le plancton, c'est donc ces petites algues ou ces petits animaux microscopiques qui vivent au fond des mers. On en entend parler en général quand on parle des baleines, puisque c'est ce qu'elles mangent. Mais en fait, on sait souvent moins bien que c'est la base de la chaîne alimentaire, que ce que les animaux qui vont manger les planctons, à la fin c'est nous qui allons les manger, et qu'en plus le plancton est la forme organique qui produit le plus d'oxygène grâce auquel on va respirer. L'artiste ici qui nous emmène dans ce voyage, c'est Manon Langeoire. Elle a fait une résidence sur la joëlette de Tara Océan, et avec son travail artistique finalement, elle a envie aussi de nous faire comprendre et nous faire appréhender d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus sensible, le travail des scientifiques. Elle s'est donc basée vraiment sur leur travail de collecte et d'étude de ces planctons pour nous amener à réfléchir, là encore, à notre rapport à la mer et notre rapport en particulier à la pollution des mers. Parce que quand on s'approche de ces planctons, on se rend compte qu'en fait, ils ont été réalisés, refaits par l'artiste à partir de tous les déchets plastiques qu'on peut récolter sur les plages. Et elle s'interroge avec ça sur le fait que finalement les planctons puissent un jour disparaître, être remplacés par toutes ces microparticules de sacs plastiques, de touillettes à café, de coton-tige, de morceaux de barrières en plastique, etc. Tout ce que l'on utilise et qui est souvent du plastique jetable et qui finalement disparaît de notre vue quand il part à la poubelle, mais se retrouve en micro-microparticules qu'on ne voit plus mais qui sont d'autant plus dangereuses et souvent au fond des mers. Donc c'est ce voyage auquel elle nous invite à voir avec les yeux et à réfléchir.
Voyage visuel, mais aussi sonore. On entend là, on est en pleine immersion sous la mer avec une création. C'est la création de l'artiste elle-même.
Avec un musicien, donc avec l'aide d'un musicien, mais ça fait effectivement totalement partie de son installation.
Poursuite du voyage, on arrive dans une grande salle, blanche, très éclairée, après être passée sous l'eau, avec des couleurs violettes. Cette salle, alors il y a deux parties, coraux blancs et marée noire, puis une deuxième qu'on va voir tout à l'heure. Coraux blancs et marée noire.
Alors là, on est remonté un petit peu à la surface, mais on est toujours sous l'eau, et on va parler des coraux. Les coraux, aujourd'hui, on sait que ce sont des espaces, des récifs coralliens qui sont extrêmement en danger. Et en fait, quand ils sont pollués, lorsqu'ils ne vont pas bien, ils deviennent tout blancs. Ici, on a fait une installation qui présente les petits animaux et les petites plantes qui constituent en fait ces récifs et qui les constituaient il y a 500 millions d'années. Et face au-dessus, finalement, de ces coraux qui blanchissent lorsqu'ils vont mal, on a des dessins d'une artiste qui s'appelle Gaëlle Vildary, qu'elle a fait au stylo bic noir, et qui représente comme des cellules de végétaux plongées, engluées dans de la matière noire, obscure, qui vient les recouvrir. Et on se rend compte qui apparaît sur ces dessins, en fait, leur titre, ce sont les noms de grandes marées noires qui ont eu lieu. Donc on est vraiment sur cette opposition, sur ce lien entre notre pollution, ce noir qui envahit tout, et les coraux qui blanchissent. Il y a beaucoup d'œuvres dans cette salle qui viennent justement nous parler des différents états de l'eau, que ça soit sous leur forme, la forme de glace de l'eau, puisque l'eau, elle a toujours été présente, presque toujours depuis le début de la création de la planète Terre. L'eau a été présente sous différents états et la quantité d'eau présente sur la Terre est restée la même puisqu'elle est bloquée par l'atmosphère. Par contre, elle va changer de forme, elle va être parfois sous forme de glace, parfois sous forme de vapeur d'eau, d'humidité dans l'air, et parfois sous forme liquide, parfois salée, parfois non salée, parfois potable. Et cette même eau que l'on boit aujourd'hui, c'est celle qu'ont bu les dinosaures avant nous, c'est toujours la même qui est recyclée, nettoyée, d'où l'importance de la garder dans un état qui sera vivable finalement pour les espèces ou les êtres humains qui viendront après nous. Et puis au centre de la pièce, on a une installation de la même artiste, Gaëlle Vildary, avec des plateaux flottants qui sont recouverts de petits lichens, de lichens qu'elle a collectés. Lichen, c'est une plante un peu particulière puisqu'elle associe une algue et un champignon, ça fait partie des premières plantes qui sont sorties de l'eau pour coloniser la Terre il y a encore des centaines de millions d'années. Et ils sont présentés ici sur ces plateaux transparents. On a l'impression qu'ils flottent à la surface. Elle les a appelés les nymphéas. En regard de cette création d'aujourd'hui, faite aussi avec la nature, on a des fossiles des premiers arbres, les calamites, qui sont apparus il y a des centaines de millions d'années, mais aussi des empreintes de petites feuilles d'arbres que l'on connaît encore aujourd'hui, comme les chênes, les aulnes. Et ce petit dessin délicat, finalement, on aime dans cette exposition l'ambiguïté. Parfois, quand on est face à un objet, à une création, on ne sait pas très bien si c'est la nature qui l'a façonné au gré des millions d'années qui sont passées ou si c'est une artiste qui l'a réalisé. Et cette ambiguïté, ben, là aussi, nous incite finalement à regarder, à faire plus attention et à admirer aussi une certaine beauté qui est présente dans tous ces objets. Et puis on finit cette pièce sur une vague, la vague de Manon Langeouer, qu'elle a réalisé patiemment, là aussi en collectant 250 bouteilles en plastique retrouvées sur les plages. En Ardèche, on est loin de la mer, mais tout ce que l'on jette va, emporté par le vent, se retrouver dans les rivières et être emporté dans la mer. Donc c'est aussi important de se rendre compte de ça. Et donc cette vague, elle l'a réalisée à partir donc de ces morceaux de plastique. Et on a l'impression qu'elle peut tout effacer, et en particulier la mémoire que nous transmet la Terre, puisque au pied de cette vague, on a les traces de dinosaures retrouvés à Ussel. Et finalement, on se demande ce que nous, êtres humains, nous allons laisser sur la Terre comme empreinte. Est-ce que dans des centaines de millions d'années, finalement, ce plastique, est-ce qu'il va se fossiliser et qu'est-ce qu'il racontera de notre passage sur la Terre ?
Et nous voilà au bord de l'abysse, dans la dernière salle.
Et on est face à une très grande pieuvre qui pourrait nous faire peur. C'est le prototype du monstre marin. Et en même temps, on entend derrière une musique très douce, très apaisante, qui fait partie donc de l'installation proposée par Lina Jabour. Et cette pieuvre, elle nous invite presque à lui faire un câlin, en tout cas à reconsidérer justement notre relation à elle et à ce que l'on nomme en général les monstres, les super prédateurs autour de nous. Donc elle est entourée de fossiles aussi, de monstres marins qui ont disparu il y a très très longtemps, mais qui nous font toujours peur. Et elle nous interroge en fait, elle nous amène à repenser finalement notre rôle à nous, notre place de super prédateurs sur la Terre aujourd'hui, et de se dire, est-ce qu'on peut repenser nos relations d'une manière plus apaisée aux êtres vivants qui nous entourent pour penser ensemble, vivre ensemble mieux le passage d'aujourd'hui et de demain dans ce contexte de changement et de transition climatique.
Une dernière chose, ce qui me marque dans cette exposition, c'est à la fois effectivement, tu l'as dit, c'est les grandes questions qu'elle pose, mais aussi une très très grande puissance esthétique.
C'était tout l'enjeu de cette exposition, c'était effectivement de travailler avec des artistes, parce que les artistes, ils nous emmènent dans des endroits où on ne va pas, on n'a pas pensé aller, et ils nous montrent le monde d'une autre manière. Et ces cinq artistes, elles ont toutes un univers créatif très très différent qui peut nous toucher plus ou moins, donc on va aller chercher les sensibilités des uns et des autres. Il ne faut pas hésiter en fait à ressentir, pas forcément à se dire de quoi ça me parle, mais qu'est-ce que je ressens ? Comment je me sens finalement vis-à-vis de ces œuvres. Et c'est vrai qu'elles nous emmènent dans des voyages, là aussi, sensitifs, très puissants, et qu'on les suit avec plaisir.
Cet été, on prend l'art.